Pluriel, le podcast du bien-être sexuel.
Tu peux t'installer, vas-y, tu peux te mettre sur le canapé. Ouais. Tu veux un café, un thé,
j'ai... Ah, grave, tout en même temps. Et de l'eau. D'abord de l'eau et après je veux bien un café.
De l'eau.
Pour ce premier podcast de Pluriel, on a de la chance de recevoir June Pla. Son nom vous dit peut-être rien. Peut-être que son livre vous dit quelque chose, Jouissance Club, une cartographie du plaisir. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit manuel du cul, si on peut dire ça comme ça. 250 pages quand même, les petits manuels, où il y a des dessins sur notre anatomie et des dessins sur quoi faire avec, avec son sexe, son ou sa partenaire. C'est un livre qui est sorti il y a un an et qui se passe entre copains, entre copines, dans la famille. De table de nuit en table de nuit, je dirais. C'est devenu un peu un objet incontournable quand on a envie d'en savoir plus sur la sexualité, sur le sexe et prendre du plaisir et prendre soin de soi. Et donc, je suis avec June Pla. Bonjour June Pla.
Salut.
On se tutoie depuis tout à l'heure, mais bon, je te demande quand même. C'est plus sympa de se tutoyer, ouais.
Tutoie-moi, oui, s'il te plaît.
Donc, pour te présenter en quelques mots, tu dessines. T'es illustratrice,
ouais.
Tu vis à Lyon, t'as 37 ans. T'es là avec nous aujourd'hui puisque t'as créé en 2018 le compte Instagram Jouissance Club. 800 000 abonnés, je crois bien, aujourd'hui. Bravo.
Ouais, merci. Ça fait beaucoup.
Et t'en as fait un livre qui s'appelle Jouissance Club, une cartographie du plaisir, qui est sorti il y a un an tout juste. Et là, tu sors la version de luxe un an après. Est-ce que tu pourrais nous dire... C'est une question pas facile, mais en fait, ce que j'aimerais savoir, c'est en 2021, c'est quoi le sexe ?
En 2021, c'est quoi le sexe ? J'ai envie de te dire qu'en 2021, le sexe, c'est... Je ne sais pas si ça a beaucoup changé. Je pense qu'il y a eu surtout une prise de conscience. Je ne sais pas si dans les chambres à coucher, on a beaucoup changé. Mais pour moi, la prise de conscience, c'est déjà un début qui peut être très prometteur. C'est une prise de conscience que je trouve assez énorme parce que beaucoup de gens maintenant comprennent l'importance de ne pas se focaliser par exemple sur la pénétration. Et ça, je parle surtout pour les personnes hétéros. Cette prise de conscience-là, elle permet aussi de comprendre qu'une personne qui est née avec un clitoris n'aura pas forcément d'orgasme via la pénétration. Et rien que ça, c'est énorme parce qu'il y a plein de personnes du coup qui veulent... explorer autrement leur sexualité. C'est un départ. C'est, pour moi, 2021, c'est la prise de conscience. Voilà, c'est ça.
Toi, t'appelles ça une prise de conscience. Est-ce que on parle aussi d'une révolution, d'une nouvelle révolution sexuelle ? Est-ce que t'appellerais ça comme ça, toi ?
Ouais, j'aime bien. Pourquoi pas une révolution, ouais. Pourquoi pas ? Et d'ailleurs, cette révolution, elle a commencé pour moi en 2018, finalement. Pas forcément parce que j'ai lancé mon compte Instagram, mais parce qu'on a enfin pu découvrir la véritable anatomie du clitoris. Je pense que c'est parti de là. Après, il y a eu MeToo, enfin, ou alors il y a eu avant MeToo. Enfin, je ne sais plus, j'ai plus la chronologie. Mais il y a eu une prise de parole des femmes en général. Il y a eu cette apparition du clitoris dans un ou deux manuels scolaires. Enfin, c'est énorme, en fait, ce qui est en train de se passer. Et j'espère que ça va mener à une révolution. Peut-être qu'on y est en plein dedans, je ne sais pas encore.
Et pour toi, tout a commencé quand on a découvert ce que c'était vraiment un clitoris ?
Ouais, je pense que ça... Moi, en tout cas, ça m'a donné une grosse gifle de comprendre comment j'étais faite et pourquoi je n'arrivais pas à avoir d'orgasme par pénétration. J'ai tout compris. En le voyant en entier, je me suis dit, oh là là, mais... En fait, d'accord, c'est comme ça que mon corps marche. On s'y prenait mal depuis le début. Et c'est pour ça que je me faisais chier depuis si longtemps. Excuse-moi pour les gros mots, mais c'est vrai, je m'ennuyais. Le sexe était tellement chiant pour moi que j'en ai écrit un livre, en fait. J'étais obligée de pallier cet ennui en écrivant ce livre. Mais c'est... Et donc, de voir le clitoris... Et ça, c'est arrivé au début, quand j'ai lancé Jouissance Club. J'ai découvert en même temps que tout le monde à quoi il ressemblait. J'étais choquée. Mais c'est pour ça que je te dis que je ne suis pas experte et que je suis comme tout le monde. pour moi, c'est une vraie révolution, en tout cas. Et puis, ça fait boule de neige, en fait. Tu connais pas ton corps, donc tu connais pas, donc tu ne peux pas en parler, donc c'est tabou, donc c'est, tu ne connais pas tes propres zones de plaisir, tu n'oses pas en parler, tu simules. Enfin, c'est vraiment, c'est le cercle vicieux. Le fait juste de savoir à quoi tu ressembles, à quoi ça, comment ça marche et à quoi il ressemble, ça va permettre à des millions de personnes de pouvoir avoir une sexualité bien plus saine qu'avant. Pouvoir dire non, essayer de nouvelles choses, arrêter de faire des choses qu'on n'aimait pas faire. Juste libérer la parole, quoi.
Toi, qu'est-ce que ça a changé concrètement de découvrir ton clitoris ?
Pour moi, de connaître l'anatomie de mon clitoris, c'était de dire à mes partenaires, écoute-moi, la pénétration, j'adore ça. C'est vraiment cool, c'est vrai, j'aime ça. Mais c'est pas ce qui va me faire orgasmer et c'est pas non plus ce qui va me faire le plus kiffer au lit. Donc voilà, j'ai écrit un livre, si tu veux le lire. Et figure-toi qu'ils s'en foutaient royalement. Et vraiment, mais genre sévère, quoi. Le dernier, en tout cas, s'en foutait, mais d'une force. Et puis, ça m'a un peu dégoûtée. Donc, du coup, j'ai voulu aussi déconstruire ma sexualité, mon orientation sexuelle, savoir si j'étais vraiment, si j'avais vraiment envie de rester dans l'hétérosexualité. Et je crois que j'ai répondu à cette question depuis un an. Je n'y suis plus. Avoir des relations sexuelles avec des personnes qui ont le même sexe que moi, bien, figure-toi que ça m'apporte une sexualité qui est bien plus complète, finalement. On a l'impression qu'il va nous manquer quelque chose, genre un pénis. Mais en fait, pas du tout. Ces personnes-là ont deux mains, une bouche, comme moi. Et avec ça, on peut faire une infinité de choses. Mais une infinité. Et le plus fou là-dedans, c'est que depuis que je ne suis plus hétérosexuelle, j'ai des orgasmes à chaque rapport. Chose qui ne m'était jamais arrivée de ma vie. J'ai eu... Allez, je peux compter mes orgasmes... qu'on m'a donné, en tout cas, sur les doigts de la main. De la main, pas des mains.
Avec des personnes qui ont un pénis.
Avec des mecs cis. Des hommes qui sont nés avec un pénis, qui en a attitré ce genre et qui sont OK avec ce genre-là. Donc ce sont des hommes cisgenres.
C'est marrant, tu utilises le mot « déconstruire sa sexualité ». On a l'impression que quand on découvre ce que c'est notre clitoris, on a besoin voilà, d'y réfléchir et carrément de se repenser, en fait, après avoir découvert ce qu'on a entre les jambes.
C'est fou parce que le fait de cacher cet organe-là, ça crée des tabous, des non-dits. Le fait en plus d'être sujet aux images, et pas qu'à la pornographie mainstream, parce que même si la pornographie mainstream c'est un problème, parce que ce sont des films réalisés par des hommes pour des hommes, je crois qu'il y a un grand problème aussi dans notre société, c'est qu'on a été abreuvé de cette vision-là de la société. Il manque une moitié... Et je trouve ça d'une tristesse absolue. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que notre sexualité est devenue un peu comme les hommes l'ont fantasmé. Et on s'en est accommodé. Même nous, on ne savait pas qu'on pouvait avoir mieux, finalement. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, ce qui fait que... on a tous plongé, toutes les hétéros en tout cas, on a toutes plongé dans cette sexualité très pénétrocentrée, qui peut être chouette, d'accord ? Je suis d'accord, on n'est pas obligé de tout remettre en question, mais qui peut être aussi... très limitante finalement, parce que beaucoup de personnes n'ont pas d'orgasme, parce qu'il y a des douleurs, beaucoup, ça crée beaucoup d'appréhension, de peur, de pression. Les personnes qui ont un pénis, ça ne m'étonne pas qu'il y ait autant de problèmes d'érection, d'éjaculation précoce et tardive, et tout ça c'est lié, je trouve, à cette injonction de la pénétration. On a inventé un mot, c'est les préliminaires, c'est tellement la pénétration est au centre de notre sexualité. Et toutes ces gamines, moi, qui m'écrivent pour me dire, on a fait des préliminaires avec mon copain, mais demain on va vraiment le faire. Est-ce que ça veut dire que je serai plus vierge ? Ça me fend le cœur de lire ça, parce que pour moi, le fait d'avoir fait des préliminaires, comme tu dis, c'est, pour moi, c'est des cunnilingus et une fellation. C'est déjà, tu n'es plus vierge. C'est pas la pénétration qui va valider le fait que tu sois vierge ou pas, en fait. Faut déconstruire tout ça, ça me rend folle. Ça me rend folle de chez folle, ouais. Ça me rend folle d'y avoir cru pendant si longtemps, moi aussi.
Oui, parce que toi, quand je te demande quelle est ta première fois, j'imagine que tu vas me répondre la première fois où tu t'es fait pénétrer.
Oui, et c'est très drôle. Du coup, j'ai re-eu cette conversation avec des amis la dernière fois et j'ai parlé de cette première fois où je me suis fait pénétrer. Et en fait, je me suis reprise. Et pour la première fois de ma vie, je disais, Ah mais non, en fait, c'était pas ma première fois. Ma première fois, c'était avec Geoffrey dans sa chambre. On s'est touchés, là. On s'est un peu touchés comme ça. Il n'y a pas eu de pénétration, mais c'était ça ma première fois en vrai.
Et donc, ça fait baisser l'âge de la première fois, non?
Oui. Du coup, ouais, c'était pas 16 ans, c'était 14. Ah bah oui, écoute.
Ça fait pas finalement peur, voilà, quand tu utilises ces mots-là, de déconstruire sa sexualité, quand on découvre ce que c'est son clitoris. Ça peut un peu effrayer de tout remettre comme ça en question, ça, c'est assez vertigineux.
Ouais, ça peut effrayer en même temps que ça peut justement enlever toute la pression qu'on s'était mise. Pour moi, le fait de déconstruire tout ça, c'est déjà c'est un travail qui se fait sur le long terme. Tu peux pas du jour au lendemain te dire « Ah ben c'est bon, j'ai complètement tout déconstruit, maintenant je suis pansexuelle ou je ne sais quoi ». Ça prend du temps. Mais c'est un chemin qui peut être... bien moins culpabilisant que ces injonctions qu'on nous a données à bouffer, en fait. Ça veut juste dire déconstruire, ça veut juste dire se sentir à l'aise avec son propre corps, avec ses propres réflexes, ses désirs, ses fantasmes, s'accepter soi-même. C'est ça, au final, le message. C'est de dire, t'es pas obligé de jouir comme un tel ou un tel. T'as ton propre corps, en fait, qui est différent de machin ou de bidule.
Ça passe par la connaissance de soi.
Et donc par l'auto-exploration, par... Il y a plus en plus de gens qui se tournent vers la méditation, la sophrologie, le sport, le yoga. C'est une excellente chose. Et pourquoi ne pas se concentrer aussi sur notre sexualité? C'est exactement la même chose. Ça fait autant de bien que la méditation, tout ça.
Donc la solution pour toi, enfin une des solutions pour qu'on soit mieux avec soi-même et avec sa sexualité, c'est... déjà d'en parler.
Le sexe, ce n'est pas tabou. Ce n'est pas tabou et ce n'est pas sale. Tu peux en parler à n'importe qui et aller dans les détails. Parce que le simple fait d'ouvrir la parole là-dessus, tu te rends compte que bah, ah, toi, tu viens de parler, bah, moi aussi, j'ai un truc à dire là-dessus. Ah, mais moi aussi, ça m'est arrivé. Ah, mais moi aussi, ah, mais moi aussi. Et juste le simple fait de savoir qu'on n'est pas seul, mais tu ne te rends pas compte le nombre de gens qui m'écrivent pour me demander s'ils sont normaux. De savoir que t'es pas seule, déjà, ça t'enlève une pression de dingue de se dire « Ah ouais, en fait, je crois que je suis normale, finalement. » Et comme on n'en parle pas, vraiment, je trouve, en détail, entre copines ou entre amis, on peut pas savoir qu'on n'est pas normal ou normaux. Donc moi, je suis restée pendant des années à me dire « Ok, je suis pas normale du tout, je n'arrive pas à avoir d'orgasme comme ça, je vais simuler en fait parce que j'ai l'impression que si je simule pas, le pauvre, ça va lui faire beaucoup de mal à son égo. » Donc... Et c'est comme ça qu'on s'enterre dans une sexualité chiante au possible, parce qu'on a que cette représentation-là du sexe.
Et à te l'entendre dire, parce qu'on discute pas aussi de la sexualité, de sa sexualité avec les autres.
Je trouve ça très drôle parce que j'ai aucun problème à parler de sexe avec mes amis depuis le début. Et on peut aller dans des détails, mais vraiment ultra gore, parler de sodomie, gorge profonde, alors ça nous fait marrer en société. Mais par contre, quand il s'agit de dire « Ah ben moi, j'ai jamais eu d'orgasme avec mon mec », ben il y a personne, ouais, personne pour le dire, ça. Donc t'entends que ceux et celles qui ont une libido de feu pendant qu'elles sont enceintes, ceux qui font toujours l'amour au bout de 15 ans, tous les jours, t'entends que ceux-là en fait. T'entends pas ceux qui vivent une sexualité qui est pas à la hauteur de leurs espérances. Et de se taire comme ça, ben, on se tire une balle dans le pied tous.
Quelles sont les solutions pour toi?
Tant que t'as un partenaire ou une partenaire qui est ouvert à la discussion, qui s'intéresse aussi à ton corps, c'est pour ça que... Enfin, je veux dire, il y a plein de mecs qui s'intéressent au corps de leur meuf, tant mieux. Moi, je les ai pas rencontrés, mais tant mieux, ils existent. Mais oui, c'est l'envie de donner du plaisir, c'est l'envie de partager, de communiquer là-dessus que je trouve importante, ouais. Et c'est pas toujours gagné, en fait. C'est pas toujours gagné, parce qu'il y a plein de gens qui arrivent pas et qui ne veulent pas se remettre en question. Mais je trouve ça intéressant de travailler là-dessus, de voir ce qui lui plaît, ce qui lui plaît pas, qu'est-ce qui le ou la fait réagir, quand tu touches là, quand tu touches pas là. C'est un jeu. Et ça peut être déstabilisant, je comprends parfaitement. Tu sors de ta zone de confort quand tu commences à faire ça. Mais c'est tellement plus intéressant, finalement. Dès le moment où tu commences à connaître l'autre en plus par cœur, parce que tu as écouté, parce que tu as regardé, mais c'est une victoire, mais laisse tomber, de savoir faire jouir quelqu'un. aisément, c'est moi je trouve ça merveilleux. C'est un travail aussi, hein. Enfin, je dis pas que c'est facile, hein. Mais c'est un travail.
Donc si on t'écoute, tes quelques conseils, du moins, c'est d'écouter l'autre, d'apprendre à savoir ce qu'il aime et de prendre le temps.
Et aussi d'apprendre à se connaître soi-même, bien entendu.
Et pour ceux donc, qui ont un peu du mal à parler à leur partenaire, il y a Jouissance Club qui existe, cartographie du plaisir avec plein de dessins à l'intérieur, des dessins de l'anatomie déjà pour apprendre un peu comment est fait notre sexe, toutes les parties, et notamment le fameux clitoris. Et il y a aussi toute une partie avec des dessins sur les gestes qu'on peut avoir entre partenaires, les petits trucs à faire, le cuni de la mer, le tutti-frutti. Ça porte des noms assez sympas. Ça fait rire comme ça quand on lit ces pages-là. Tu as voulu donner un nouveau ton à la sexualité. Est-ce que pour toi, il faut qu'on change de ton quand on parle de cul?
D'une part, j'aime bien faire des blagues en permanence parce que je trouve ça très décomplexant. Et puis,
j'avais
aussi,
pas remarqué.
Aussi parce que je suis mal à l'aise.
On n'avait pas remarqué.
Voilà, on n'avait pas remarqué, non. Et donc c'est une partie de moi aussi que j'ai mis dans ce livre. Et puis parce que je ne sais pas écrire, donc je me suis dit je vais compenser aussi avec l'humour, bref. Et aussi parce que je trouve que le ton est important, bien sûr. Il faut le rendre joyeux, ce truc. C'est joyeux. C'est un moment tout particulier qu'il faut choyer. Et puis, j'ai pas envie d'en faire un truc pour l'élite, pour les gens qui sont déjà très avertis là-dessus. C'est un truc qui, pour moi, est tellement simple, tellement beau, tellement joyeux, en fait, que le ton, pour moi, était important. Ouais.
En tout cas, apprendre ce qu'on ressent, ce qu'on veut, qui on est, ça a pas l'air d'être un cheminement aussi facile que ça. Le conseil que tu pourrais donner quand on a envie d'aller chercher plus loin, de s'amuser au lit, etc. Quel conseil tu pourrais donner?
Ce qui pourrait être intéressant, c'est de lire des livres, mais aussi de suivre des comptes Instagram tels que Orgasme et moi, Merci beaucoup, que je respecte énormément et qui font un travail de dingue. Parce qu'elles déconstruisent, elles aussi, la sexualité. Il y a aussi Aventure en orgasmie qui est pas mal, que j'aime beaucoup. Ouais, en fait, maintenant, sur Instagram, sur Internet et dans les livres, il y a de quoi faire vraiment pour apprendre à un peu mieux se connaître. Jusqu'à présent, on avait zéro documentation. C'est aussi pour ça qu'on répétait tout le temps les mêmes erreurs. Et c'est aussi pour ça que je dis que les représentations comptent. C'est qu'il faut aller chercher ces informations qui sont maintenant faciles à trouver et qu'on ne trouvera toujours pas, pour l'instant, à la télé ni dans les pornos mainstream. Donc, et c'est pour ça aussi que j'aimerais encourager les gens à s'acheter des abonnements sur des plateformes de porno féministes, telles que Four Chambers, Carré Rose. Il y a plein de choses à voir et vous allez voir que déjà les images sont belles, les représentations des personnes queer sont merveilleuses. Il n'y a pas que du queer d'ailleurs, il y a pour tous les goûts finalement. Et puis on peut y découvrir des images qu'on n'a pas l'habitude de voir et qui peuvent nous aider. Pour moi c'est ça qui manque, c'est des images de référence pour que les gens... Ça donne une impulsion en fait aux gens pour juste créer leur propre monde. Si on a tout le temps les mêmes images, si on nous donne tout le temps les mêmes images, on fera ce qu'on nous donne à bouffer. Mais c'est très difficile de sortir de nos habitudes si on ne nous donne pas l'impulsion pour le faire, si on ne nous donne pas les images pour le faire. Et c'est pour ça peut-être que le livre marche aussi bien, c'est parce qu'il y a des images très simples pour comprendre comment faire telle ou telle technique.
Et donc j'ai une dernière question qui va devenir, je l'espère, la question rituelle de Pluriel. Pluriel, qui est le podcast du bien-être sexuel. As-tu un conseil pour prendre soin de soi? Un objet, peut-être? Un rituel? Une philosophie? Une parole?
Ce qui me vient là, tout de suite, c'est, et ça me parle à moi directement, c'est de verbaliser les choses qu'on n'a plus envie de faire. Ou plus forcer. Voilà, et en parler.
C'était Pluriel, le podcast produit par Gapian, la première plateforme française du bien-être sexuel.